nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Là, on fait ça à distance, mais c'est la distance n'a pas d'importance, comme disait l'annonce dans le temps. Et on se retrouve avec des sujets qui sont difficiles, mais nécessaires aujourd'hui.
Oui, on commence avec un sujet qui est un peu effectivement difficile, peut-être un peu lourd. Mais on parle de la réalité des agressions sexuelles à l'encontre des personnes handicapées accompagnées en établissement. Donc, c'est une nouvelle qui est sortie en France, mais bien sûr, ça peut arriver un peu partout. Là, c'est arrivé également au Québec. Là. Les personnes en situation de handicap sont plus exposées à la violence. Et la violence en établissement de soins de santé est une réalité dont on veut pas souvent parler. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive de façon trop fréquente pour les personnes en situation de handicap qui sont des personnes vulnérables.
Et ce qui a fait scandale en France, c'est qu'il y a eu en fait une situation, une parmi tant d'autres. Celle-là avait été dénoncée et le syndicat a porté plainte contre le licenciement de l'employé. L'employé a conservé son travail et là, ça devient une bataille administrative qui semble totalement évacuer la victime.
Oui, effectivement, donc c'est une bataille juridique pour savoir justement à quoi ont droit les employés lorsqu'ils sont licenciés dans le cas de telle situation. Les personnes qui sont en charge de ce type d'employé-là déplorent en fait là, justement que les employés sont mieux protégés dans un cas comme ça que les victimes. Donc, effectivement, au niveau là, de plusieurs associations, on se mobilise là, pour mieux protéger les enfants et les adultes en situation de handicap qui sont victimes de violences sexuelles et on pointe les difficultés donc à les faire entendre, on pointe les difficultés à avoir accès à un système juridique qui est adapté aux besoins de ces personnes-là, un système juridique étant peu accessible. Et évidemment, on pointe, comme je le disais là, il y a quelques secondes, que les employés sont protégés par le syndicat, et bien qu'on soit pas anti-syndicaliste, dans un cas comme ça, le syndicat protège mieux l'employé que la victime.
Oui, ben voilà, c'est là. Il y a une structure qui protège l'employé. On peut le comprendre qu'on veut éviter qu'il y ait des abus dans l'autre sens, mais cela dit, c'est comme les victimes n'ont pas de recours ou ont de la difficulté à trouver des appuis pour se faire entendre. Par ailleurs, il y a une politique volontariste qui se renouvelle depuis près de 15 ans en France. Sur l'intégration des travailleurs en situation de handicap.
Oui, donc le renouvellement des conventions entre l'IRA et le FIFEC, donc on parle d'une politique au niveau du handicap en ressources humaines. C'est la sixième convention entre l'IRA et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc, je disais, le FIFEC, il a été signé pour 3 ans, ce qui fait qu'on va pouvoir effectivement aider l'insertion des personnes en situation de handicap. On parle d'une insertion qui se passe sur 4 axes. Donc, au niveau du recrutement, au niveau de l'accompagnement, le suivi et le maintien à l'emploi, au niveau également des communications et de sensibiliser au niveau de l'insertion à l'emploi des personnes en situation de handicap.
Et rappelons qu'il s'agit du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en France. Et il y a quand même un succès qui est relatif, si je peux dire. Le taux d'emploi, dans ce cas-ci, à l'Institut national de recherche en agriculture, atteint presque 6% des personnes à l'emploi de l'Institut sont en situation d'handicap. Alors, il y a une progression. Il y a des démarches qui ont eu lieu, se sont répétées. Donc, petit à petit, il y a une meilleure intégration de ce côté-là parce qu'il y a un fonds d'insertion qui existe pour la fonction publique en France pour les personnes en situation de handicap. Bon, ben bravo, ça fonctionne. Hein?
On parle quand même de financement qui est en hausse de 15% par rapport à 2021-2023. Donc, vous allez me dire que 6% de personnes en situation de handicap, c'est très peu.
Oui.
Heureusement, bon, étant donné qu'on met un petit peu plus de financement, là, peut-être qu'on va arriver à améliorer les chiffres, mais c'est quelque chose, là, qui fonctionne, vous l'avez dit, de façon relative, François, mais c'est un pas par en avant,
Par en
toujours
avant.
bien.
Oui, parce qu'on sait qu'il y a plus que 6% de personnes handicapées dans la population
Oui,
qui peut
voilà.
chercher un emploi et en obtenir un. Hein, on est comme plutôt.
Mais quand même, pour une fois, on augmente le financement plutôt que de le réduire, hein, c'est un
Ouais,
bon début.
oui. Ben, on parle de réduction de budgétaire. Voilà, de l'autre côté de la page en France, le Sénat français essaie d'éviter qu'il y ait des coupes dans le budget.
Oui, donc une bonne nouvelle amène une mauvaise nouvelle. François, vous me connaissez. Donc,
Ouais.
ici, on parle de Arnaud Bazin, qui est sénateur du Val-d'Oise, qui demande en fait à ce qu'on ne puisse pas, à ce qu'on ne coupe pas les budgets du handicap et de la solidarité pour les personnes en situation d'handicap. Le gouvernement a coupé donc 300 millions d'euros pour les personnes en situation d'handicap à Bercy en mai février. Et évidemment, on déplore le fait que ça aura des conséquences graves sur les services aux personnes en situation d'handicap, encore une fois.
Oui, parce que, en fait, le budget est énorme. On parle d'un budget de 31 milliards d'euros qui finance la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, enfin, toutes sortes de programmes. Mais ce qui est malheureux, c'est que cette coupe, on peut bien dire, ah, ce n'est que 1% qui est coupé. Ces 300 millions, c'est quand même pas rien. Et ces coupes-là semblent viser plus particulièrement les programmes. Pour des crédits d'allocation aux adultes handicapés et encore plus les femmes.
Oui, ben, écoutez, on en a parlé dans les dernières semaines, François, les femmes en situation d'handicap qui sont plus particulièrement touchées dans les cas, plus particulièrement touchées par la pauvreté également. Et on parle donc des femmes qui vont être
Exclu, on peut dire, oui.
exclues, oui, voilà, merci, exclues du budget, donc égalité entre les hommes et les femmes qui va être encore amputé de 7,7 millions d'euros voilà, pour le programme d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ce qu'on comprend en fait de ça, François, c'est que c'est le programme d'égalité entre les hommes et les femmes qui va être le plus sévèrement atteint. Et évidemment, c'est un programme qui est important. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et donc, effectivement, c'est encore les femmes en situation de handicap qui vont écoper.
Oui, parce que si c'est 1% de coupe dans l'ensemble du budget, ben dans le cas de ce programme-là, c'est 10% du programme qui saute. Alors, peut-être que pour quelqu'un qui prend la décision, 7 millions ici, 7 millions là, c'est pas tant que ça, mais quand c'est 10% d'un programme qui est déjà petit,
Oui, voilà,
ça fait mal.
7% sur un programme comme celui-là, 7%, c'est énorme.
Oui, voilà, tout à fait. Et ça va être le temps de voter bientôt aux élections européennes.
Oui, effectivement, et on va essayer encore une fois de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap dans les élections européennes. Donc, il y a un voyage à Bruxelles qui a été fait pour se préparer à voter aux élections. Avec l'ADAPEI 69, qui est un organisme de défense des droits des personnes en situation de handicap qui organise des activités d'inclusion. Et donc, il y a 10 personnes avec un handicap intellectuel qui sont allées du 3 au 5 mars à Bruxelles pour rencontrer les élus politiques et pour se familiariser avec les questions de vote. On essaie évidemment de permettre à ces gens-là d'exercer leur droit de vote et de les éduquer à ça pour qu'ils puissent voter selon leur point de vue, selon leurs valeurs. Et on pense que c'est tout à fait important de faire ça parce que les personnes en situation de handicap intellectuel ont quand même une voix, ont quand même
Tout
un
à
vote
fait.
et peuvent, s'ils votent plus, on va mieux les entendre quand il va être temps de mettre en place des programmes pour ces gens-là.
Exact. Et à Bruxelles, parce qu'il s'agit des élections pan-européennes pour toute la communauté européenne, l'Union européenne, ces élections-là ont lieu plus tard ce printemps, si je ne me trompe, fin mai, début juin. Alors, c'était le but de l'exercice.
Effectivement, c'est le 9 juin, François, que les élections vont lieu.
Juste avant de partir pour la pause, il était question je dirais, d'une intégration sauvage dans les écoles. Le gouvernement français se targue d'avoir fait beaucoup de chemin dans l'intégration des personnes en situation de handicap, mais c'est souvent fait de façon brutale.
Oui, ben d'abord, beaucoup de chemin. On en parlait, François, au début de l'année scolaire. Il faut mettre ça en perspective. Là, c'est quand même très peu d'enfants en situation de handicap qui sont finalement intégrés à l'école. Là, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas intégrés. Mais effectivement, les enfants qui sont intégrés à l'école, on parle d'enfants qui sont intégrés dans des classes régulières. Et encore une fois, on n'est pas contre le principe, sauf qu'on ne donne pas des ressources aux enseignants, enseignantes et aux aides-enseignants, aides-enseignantes. Pour favoriser l'intégration de ces personnes-là, fait que les professeurs, les enseignants sont complètement débordés, se retrouvent avec des cas qui sont difficiles, sans avoir de ressources pour les aider à gérer. Les autres élèves de la classe se retrouvent pénalisés parce que le pauvre enfant en situation de handicap ou les enfants en situation de handicap ne sont
Et
pas aidés à leur juste milieu, à leur juste besoin, et ben, tout le monde écope dans la classe finalement.
ben voilà, tout le monde se retrouve perdant. Voilà, encore un sujet qui fait la manchette en France. On va se reparler de tout ça. On va parler de médias dans quelques minutes.
Sans détour avec François Beauregard.
Et en compagnie d'Élisane Pellerin, on continue la revue de presse. Élisane, en Europe, entre autres en France, il y a eu une étude qui couvrait plusieurs pays sur la représentation dans les médias et les pubs.
Oui, effectivement, les personnes en situation de handicap seraient moins représentées dans les médias en France. Donc, on parle d'une étude, donc, d'Odoxa, pardon, Odoxa,
Oui.
donc 88% des Français interrogés jugent que les travailleurs handicapés sont performants, un trou qui a progressé de 12 points en 12 ans. Par contre, les résultats dans le secteur des médias sont un petit peu plus décevants. Donc, 69% des Français considèrent que les personnes en situation de handicap occupent une place insuffisante dans les publicités françaises par rapport à leur nombre dans la population. Et le taux est quand même supérieur à la moyenne des pays étudiés, alors que la moyenne est de 66 % et nettement plus mauvais que le chiffre britannique qui est de 55 %.
Et,
Donc, les personnes en situation de handicap sont encore plus peu présentes dans les publicités.
ben en fait, en lisant ce sondage-là, je me suis interrogé, et là, je vais lancer un pavé dans la mare, parce que les Français considèrent que les personnes en situation de handicap sont insuffisamment représentées, ce qui, ça, on sait pour être une vérité, 69%. Dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni, le chiffre est beaucoup plus bas. Alors, est-ce que de fait, il y a plus de personnes en situation de handicap dans les médias ou les pubs, ou c'est simplement que la population en général se satisfait de ce qui existe, hein? Alors là, je ne vais pas faire des contorsions intellectuelles, là, mais la question, est-ce que la perception de la juste représentation, ou c'est qu'il y a véritablement une meilleure représentation au Royaume-Uni, par exemple, qu'en France? Alors, à supposer que les
C'est quelque
représentations...
chose qui n'était pas pris en onde, qui n'était pas, pardon, pris en compte par l'étude, mais qu'effectivement, il faudrait creuser, François.
Oui, exact, parce que peut-être de fait les Français ont un plus grand sens de l'équité et souhaiteraient que ce soit plus justement représenté, mais en même temps, peut-être que du côté britannique, de fait, il y a plus de gens en situation de handicap dans les médias. Alors, c'est comme peut-être, on peut donner deux sens à ce résultat de sondage. Quoi qu'il en soit.
Effectivement, le sondage ici portait vraiment sur les questions de notre perception des représentations. Encore faudrait-il voir les représentations réelles, de quelle façon est-ce que ça avance dans la société et s'il y a vraiment eu des avancées ou si c'est vraiment là, la perception qui fait en sorte que les Français sont
Pointé du doigt.
en désaccord avec le nombre de personnes en situation de handicap qui sont représentées. Donc, c'est à suivre. Il
Ouais.
faudrait que je vous trouve une étude pour ça. On s'en reparlera à notre prochaine émission, François.
Ben, c'est gentil, mais je parie un vieux 2 piastres, comme on dit, que probablement la représentation est faible partout.
Je ne vous contrerai pas là-dessus, je ne parierai pas contre vous, François, sur celle-là.
Voilà. On parle des Jeux des Paralympiques, encore une fois, parce que on va parler de musique et de paralympisme. Oui.
Oui, donc, on va parier donc de Anja Lider qui va jouer en clôture des Jeux Olympiques. C'est une joueuse de harpe. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que Madame Linder est une dame qui a eu qui a eu un accident qui lui provoque un handicap, ce qui fait que elle a une harpe électropneumatique, ce qui fait qu'elle
Oh.
joue avec sa bouche, en fait. Donc, c'est une musicienne de 23 ans. C'est elle qui fera la clôture des Jeux paralympiques qui auront lieu le 8 septembre 2024.
Oui, exactement. Et il faut comprendre que son handicap a une, si je peux dire, une origine assez catastrophique. Il y a eu plusieurs années un concert à Strasbourg où habitait Anja Linder. Et pendant le concert, il y a eu un orage cataclysmique. Un platane, un arbre énorme, a été abattu par la foudre et est tombé sur la foule. Il y a eu 13 morts et de nombreux blessés. Et une des personnes qui s'en est mal tirée dans cet incident, ben c'était Madame Anja Linder. Alors, l'origine de son handicap est un peu, je dirais, pour le moins spectaculaire. Voilà. Et ben ça va être elle va être l'artiste qui va faire le spectacle de clôture des Jeux paralympiques. Et pour vous en faire entendre un peu, parce que Mme Anja Linder, elle joue de la harpe, puis elle en disque, puis elle vient de sortir tout récemment un magnifique coffret de Schubert. Voilà. On écoute ça, puis après ça, on vient au Canada.
Thank you. petit problème avec la fin de mon enregistrement.
Ah oui, ça vient de finir?
Ça vient de finir.
Ah, ben voilà. on reprend la corde. Bravo. Ben, c'est pour une raison technique qui nous échappe, mais malheureusement, nous n'avons pas pu jouir de la fin du deuxième mouvement du concerto pour harpe de Schubert, interprété entre autres par Mme Anja Linder. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on se rattrapera bien à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Ben, rebonjour, on continue, Élisane. La semaine dernière au Québec, c'était le budget. Alors là, on en parle, hein, on se fait un petit spécial budget.
On se fait un petit spécial budget, François, c'est un politologue en moi qui vous parle. Et donc, pour nous, politologues, le budget est toujours un événement qu'on construit avec beaucoup d'intérêt. Et il y a quand même des choses importantes pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées dans le budget. Et on commence par le crédit d'impôt et l'allocation familiale qui va avoir certaines modifications.
Oui.
Donc, le crédit d'impôt remboursable va accorder une allocation aux familles, qu'on appelle l'allocation familiale. Donc, va avoir des changements. On parle d'un crédit d'impôt qui est versé de façon trimestrielle, mensuelle, et qui comporte trois composantes principales. D'abord, un montant de base pour étudier aux enfants, un supplément pour enfants handicapés et un supplément pour enfants nécessitant des soins exceptionnels.
D'accord.
Dans le cadre du budget, donc, je le disais, là, différentes modifications sont modifiées particulièrement aux deux suppléments pour les enfants en situation de handicap. Il y a des modifications qui portent sur certains paramètres d'évaluation et sur les cas présumés d'handicap et les façons dont on appliquera ce crédit d'impôt.
Oui, parce qu'il y avait, je pense, une lourdeur administrative et une certaine part de confusion. Et c'est ce que le budget essaie de régler, si je peux dire. Il est question d'une date fixée au 1er juillet 2024 pour l'application de nouveaux critères, je pense.
Oui, donc un montant de 229 $ peut être versé mensuellement au titre d'enfant en situation d'handicap pour un enfant ayant des fonctions psychologiques au niveau de ses fonctions mentales, pardon, qui sont limitées. Certains enfants peuvent être présumés en situation d'handicap et le budget fédéral maintient une pratique qui propose un rapport d'évaluation de professionnels qui devra inclure dorénavant les éléments suivants. Donc, il y a le diagnostic établi, description d'étendue de la gravité des déficiences ou des mesures reconnues et une description des capacités et des incapacités de l'enfant sur le plan du fonctionnement et dans ses différents milieux de vie et une description précise des soins thérapeutiques qui ont été reçus dans les 12 derniers mois et ceux envisagés pour la prochaine année. Les modifications s'appliqueront à l'égard de toute demande pour le crédit d'impôt présenté à Retraite Québec après le 30 juin.
Voilà. Bon, ben on verra si cette simplification ou cette clarification va aider les familles qui en font la demande. Dans le budget aussi, il y avait, si je peux dire, la fin d'une saga qui, de toute façon, dès le début, était probablement cruelle et inutile, mais au moins, ça se termine bien.
Oui, on en parlait, François, dans les dernières semaines. Donc, victoire pour les aînés en situation d'invalidité au Québec. Les personnes de 65 ans et plus en situation d'invalidité ont droit à la pleine retraite du régime des rentes du Québec à partir de 2025. Effectivement, les personnes qui étaient en situation d'invalidité étaient pénalisées lorsqu'ils arrivaient à 65 ans parce qu'ils n'avaient pas l'ensemble de leur rente de disponible. C'est maintenant une réglementation qui a été retirée.
Voilà.
Effectivement, là, les personnes de l'opposition demandaient ça depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
On parle de 77 000 personnes invalides prestataires qui bénéficieront à partir de 65 ans d'une augmentation de leur rente annuelle, près de 4 000 $. Ce combat-là, ça date de plusieurs années, on le rappelle. il y a eu des demandes qui ont été faites en 2018-2019. Il y a un tribunal administratif qui a jugé que la politique du gouvernement était discriminatoire. Cela n'a pas empêché le gouvernement d'aller en appel à l'automne dernier. Ça demandait, comme on dit chez nous, du front tout le tour de la tête. Et puis, il y a eu, ça l'a remonté jusqu'à une plainte déposée aux Nations Unies. On en a parlé la semaine dernière. Et finalement, voilà, après que le gouvernement était en appel pour et avoir fait toutes sortes de complexités pour les gens qui essayaient de défendre leur point de vue, tout d'un coup, voilà, coup de baguette magique, c'est réglé.
Oui, effectivement, le gouvernement là, qui change de position pour la présentation du budget, donc qui se rallie en fait au parti d'opposition.
Exact.
Ça sent les élections, François, si vous voulez mon avis.
Ça sent les frites, ça sent la patate chaude.
Ça sent la patate chaude. Donc, effectivement, le gouvernement qui fait vraiment un virement à 360 degrés dans ce cas-là, parce qu'effectivement, il était complètement contre le fait d'abolir cette règle-là. Et tout d'un coup, là, du jour au lendemain, décide d'abolir la règle comme demandé. Il faut dire aussi, et on continuera d'en parler dans les prochaines minutes, mais le budget est particulièrement favorable aux personnes aînées.
Oui.
Donc, les personnes aînées sont vraiment au centre de ce budget-là.
Ben, parlons-en, justement.
Parlons-en. Donc, en fait, au niveau...
Ça, c'est le ministère de la Santé, je pense, de Christian Dubé, qui va compter sur une enveloppe de 1,1 milliard de plus consacré au maintien et à la qualité des soins, entre autres à domicile pour les personnes âgées.
Oui, effectivement. Donc, on parle d'une croissance de 5,3 %, oui, des dépenses en santé. C'est vraiment 1,1 milliard supplémentaire consacré au maintien et à la qualité des soins et des services envers les personnes aînées. Il faut dire, François, que les personnes aînées sont de plus en plus nombreuses au Québec et demandent évidemment de plus en plus de soins étant donné le vieillissement de la population et c'est quelque chose donc que le gouvernement du Québec a pris en compte dans son dernier budget. On parle de entre autres du soutien à domicile.
Oui.
398 000 Québécois ont accès au soutien à domicile en ce moment, tandis que 15 700 sont en attente de services. Donc 581 millions qui vont servir à bonifier l'offre de soutien à domicile qui est tout à fait inadéquate, insuffisante pour l'instant pour les personnes qui en ont besoin. Et il faut dire là, que le gouvernement, depuis plusieurs années, essaie de maintenir à domicile les personnes âgées parce que ça coûte moins cher, évidemment.
Ben, c'est plus agréable aussi.
Et parce que, bien sûr, on manque de place dans les instituts. Et donc, on essaie de retarder l'institutionnalisation des personnes âgées. Et donc, le maintien à domicile, ben, ça coûte cher. Et on va, entre autres, bonifier le budget du maintien à domicile pour essayer d'offrir des services de qualité aux personnes qui restent à la maison plus longtemps.
Exact. Le gouvernement vise à répondre aux besoins de 19 000 personnes supplémentaires d'ici 2028. C'est plus agréable de rester chez soi que d'être institutionnalisé. Ça, c'est certain. Pour retourner encore sur le sujet du budget, le gouvernement n'a presque rien annoncé, cependant, du côté de l'habitation.
Oui, c'est là où la bobillesse, François, et aussi au niveau de la santé des personnes âgées en général, ça a quand même bien été au niveau du budget. Là. Au niveau de l'habitation, il n'y a presque rien de nouveau, en fait. Là. Environ 12 500 logements abordables sont financés sans être construits en ce moment au Québec. Donc, on a du retard dans la construction. Le plan budgétaire actuel prévoit un parc immobilier de 23 000 d'ici 2028-2029. Donc, on a une légère augmentation qui ne suffira pas à la demande d'un côté et de l'autre côté. Encore faut-il construire ces endroits-là, alors qu'on accuse déjà un retard qui est très, très important. Donc, on avait promis 8 000 logements de plus sur 5 ans, mais ça prend beaucoup de temps. Et pour l'instant, j'ai dit, on accuse un retard extrêmement important, alors qu'ai-je besoin de le dire encore une fois, François? Il me semble qu'on en parle dans les dernières semaines
On en parle
beaucoup.
chaque semaine.
La crise du logement touche très, très fortement tous les Québécoises et Québécois, mais encore plus les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les personnes, évidemment, qui ont de faibles revenus. Donc, c'est sûr que les logements abordables sont un besoin très, très important pour les gens qui ont des faibles revenus et le fait qu'on a tous des retards importants à la construction et
Ouais.
que au niveau du budget, on ne semble pas mettre ça en priorité, qu'on n'aura pas d'hausse significative au niveau du financement, on risque pas de vraiment faire changer les choses et d'améliorer le problème.
En fait, on dirait qu'on annonce du financement, mais ça aboutit pas à l'autre côté du tuyau. Le ministre avait déjà dégagé 1,8 milliard lors de la mise à jour économique en novembre dans ce programme, mais qui avait déjà été lancé en 2022. Mais ça semble pas créer des logements. C'est comme s'il y avait beaucoup, beaucoup de, je dirais, d'embourbement. Il y a comme je dirais, oui, il y a un bouchon administratif en quelque part. Il y a peut-être trop d'interventions. Alors qu'on a vu des projets publics, privés ou philanthropiques, on en a parlé à l'émission au cours des dernières semaines, en dit logement, entre autres, comme quoi il y a des façons de faire qui permettent aux projets d'avancer, mais on dirait que tout ce financement annoncé n'aboutit pas, en fait, ne crée pas de nouveaux logements. Peut-être qu'il y a une question de lourdeur administrative là-dedans. Quoi qu'il en soit, toujours fidèle à notre politique Oreo, on va parler d'une bonne nouvelle à la Ville de Québec.
Oui, donc il y avait le Québec qui octroie 500 000 $ pour le groupe TAC. Le groupe TAC, on le connaît, François, on en parle quand même de façon régulièrement dans votre émission. C'est un groupe donc qui emploie des personnes en situation d'handicap. Et le groupe TAC fait une très bonne mission là, pour l'insertion à l'emploi des personnes en situation d'handicap et plus largement leur insertion sociale. Donc, par l'intermédiaire du Fonds du gouvernement du Québec, on a annoncé lundi 500 000 $ qui vont permettre une croissance de l'entreprise. Entre autres, c'est pour répondre aux promesses électorales qui avaient été faites par Bruno Marchand, qui est maire
Oui,
de Québec,
tout à fait.
lors des élections municipales de l'automne 2021. Donc, on va la priorité est d'acquérir de nouveaux équipements technologiques pour permettre l'élargissement du champ d'activité par le fait même, donc continuer à employer des personnes en situation d'handicap pour le groupe TAC.
Exact.
Dans la région de Québec, il y a quand même 1 000 personnes en situation d'handicap qui vivent de l'aide sociale. Donc, évidemment, on essaie de réduire ce nombre-là en permettant à ces gens-là une intégration sur le marché du travail. Et je le disais tout à l'heure, une intégration sur le marché du travail veut aussi dire une intégration sociale pour ces
Tout à
gens-là.
fait,
Le
oui.
fait de briser l'isolement, le fait de leur permettre d'acquérir de nouvelles habiletés également. Donc, c'est la mission du TAC est une mission très réussie. C'est un des organismes qui se porte très bien, qui fait vraiment la différence à Québec. Et donc, on est très heureux d'avoir qui sera largement financé pour continuer ses activités.
Exact, on pense même à créer une cinquantaine de nouveaux emplois qui vont s'ajouter aux 450 actuels. Dans la région et depuis 45 ans, le groupe TAC se spécialise entre autres dans l'assemblage de pièces d'usine, l'ensachage de produits alimentaires, la préparation de colis ou la production d'agendas personnalisés. Voilà. Parlant d'agenda, hein, pour terminer, on va faire un petit tour du côté de l'agenda culturel dans un espace, dans un d'un point de vue d'accessibilité. Et en parlant d'espace, de théâtre Espace Libre vous invite à la pièce Six personnages en quête d'autrice qui sera présentée avec audio description. Ça sera le jeudi 21 mars. Le 21 mars, là, c'est jeudi dans quelques jours. La représentation est à 20 heures. Ce qui est remarquable, c'est qu'à partir de 19 h, vous pouvez visiter le décor. Alors, en termes d'audio description, si en plus il y a, je dirais, un tour du décor en tactile, ça va permettre aux personnes en situation de handicap visuel de pouvoir mieux s'y retrouver puis d'avoir une meilleure idée de la représentation scénique. Des billets au tarif réduit de 10 $ au lieu de 35 sont offerts en quantité limitée pour les spectateurs aveugles ou vivant avec une vision partielle. La carte accompagnement loisirs également est acceptée par Espace Libre. On demande d'avoir un téléphone intelligent et une paire d'écouteurs parce qu'il ne faut pas que l'audiodescription ennuie les spectateurs voyants qui sont assis à côté de nous. Et tout ça, on peut s'inscrire auprès de l'INCA. Voilà. À la Place des Arts, il va y avoir beaucoup de bruit, je pense, Élisane.
Oui, il va y avoir un atelier de percussion, François, à la Place des Arts. Donc, on parle du 8 avril, du 15 avril, du 29 avril, du 6 mai, de 10 h à midi. Ça va être des ateliers d'art adaptés avec l'équipe de médiateurs culturels de la Place des Arts et l'artiste Sadio Sissoko. Donc, on va avoir sur la rue Saint-Urbain, on va pouvoir jouer avec percussions.
Oui, exact.
Et ce sera adapté aux personnes en situation de handicap. Il y aura aussi de l'audio-description, des supports tactiles et des œuvres qui inviteront à la réflexion, ce qui permettra donc aux personnes en situation de handicap de favoriser la découverte des percussions, là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse.
Ben oui, et ça, c'est au 1600 rue Saint-Urbain. C'est juste un petit peu au nord de Sainte-Catherine. C'est pas tellement loin de la maison de l'OSM, dans la salle, le Salon Urbain. Encore une fois, si on veut y participer, on communique avec l'INCA pour avoir plus de détails. Le musée...
L'activité est gratuite.
Ah, ben ça, c'est super. Et les percussions, là, c'est sûr que ça demande quand même de l'oreille. Voilà. J'ai un de mes amis handicapés visuels qui étudie les percussions depuis 6 ans. Il bénit le ciel d'avoir des voisins aussi tolérants. Bon, voilà. Le Musée d'art contemporain de Montréal est heureux de vous accueillir. D'accueillir avec une exposition Arborescence qui se compose d'une visite de l'exposition en cours, d'un atelier de création avec celle-ci. Cet événement-là a lieu le 15 avril de 9 h 30 à 12 h 30. Ça, c'est au Musée d'art contemporain. C'est juste à côté de la Place des Arts. Et voilà, ça, c'est le 15 avril de 9 h 30 à 12 h 30. L'activité est gratuite et encore une fois, on peut s'y inscrire en participant ou en rejoignant l'INCA pour ce faire. Ben, Élisane, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, François.
Et puis, ben, au plaisir de se retrouver dans un avenir pas trop lointain. Hein? Peut-être après le congé de Pâques. Voilà. On remercie Claire Guérin à la recherche et Mathieu Tessier qui fait des pieds et des mains. Merci.